pieno di senso, nei suoi incontri attraverso il mondo, nel campo sempre di questa ricerca di incontrare l'altro. Quello è un racconto come si faceva da prima attraverso il fuoco e le castagne. Gli anziani si raccontavano, ci raccontava ai bambini il loro vita, quello che è stato e tutto quello. E c'era un senso di ascolto, di una reciprocità nell'ascolto, perché anche Genole vuole essere ascoltato per quello che ha fatto, e per noi farà un'esperienza, diciamo in Africa si dice fra poco non l'avremo, o ci sarà, è un baobab, un albero. E quindi chiediamo a lui di raccontarci le sue esperienze e di quello che ha fatto.
Dieu e l'Église m'ont donné la vie que je n'imaginais pas, mais qui me permet, dans la violence actuelle, de clamer malgré tout une espérance qui vient du Seigneur. Dans ce ministère que l'Église a voulu pour moi, je suis un homme de terrain, formé par la rencontre de ceux qui avaient ma foi et de ceux qui en avaient une autre. Je voulais aimer parce que Dieu est amour et que je devais l'aimer, lui, en ceux et celles auprès desquels j'étais envoyé. Je vous parlerai donc premièrement de mon parcours depuis un demi-siècle. Deuxièmement, des rencontres qui m'ont rempli le cœur et l'esprit. Il y en aurait bien d'autres d'ailleurs, mais il fallait se limiter. Troisièmement, de mes raisons d'espérer. Et en conclusion, je dirais un peu ce que je pense de l'islam. Alors d'abord mon parcours. Avec le recul, je vois quatre étapes très nettes. Et autant d'appels à chaque fois que je pensais m'orienter ou être orienté vers d'autres ministères. Quatre étapes, dont trois, durant lesquelles je n'étais pas immergé dans la population musulmane, mais à la croisée des deux communautés. D'abord, la Côte d'Ivoire, en 1968. C'est l'étape du défi culturel et du défi religieux. 19 ans, que je fus curé d'un bidonville, prédicateur de brousse ou maître des novices, les musulmans me visitèrent et surtout je les visitais. Je n'avais pas une formation à l'islamologie, mais on m'affirma peu après mes débuts que j'avais reçu le charisme de la rencontre sur le terrain. D'abord, j'avais voulu prendre les grands moyens en demandant d'aller étudier l'arabe, mais mon évêque refusa. Cela était bien compréhensible, car il ne voulait pas voir partir, au minimum pour plusieurs années, le jeune missionnaire qui lui arrivait. Je demandais alors à apprendre le bambara, la langue parlée par les musulmans de cette région d'Afrique de l'Ouest. Après 7 années de constance très bretonne, on consentit enfin à ce que je parte les 6 mois nécessaires au Mali voisin, où les Pères Blancs avaient une école pratique de ces hautes études. Une semaine avant le cours, je cherchais à visiter des amis missionnaires, mais un décollement de la rétine près de Mopti stoppa ma course inexorable vers un diplôme linguistique. La déchirure de l'œil dans le taxi de brousse qui me ramenait sur plus de 600 km de route défoncée vers Bamako, la capitale, n'arrangea rien. Rapatriement, opération à l'Hôtel Dieu de Paris et de Caen, je compris alors qu'il ne me fallait pas chercher à comprendre les règles de la réussite en affaires de notre Dieu Tout-Puissant. Il me fallait travailler avec les petits moyens. J'en vais rapidement à distinguer deux aspects dans ma mission. La relation avec les musulmans et la formation des chrétiens à la rencontre. Pour l'une et l'autre piste, je cherchais mes sources. Jésus rencontrant les non-juifs, le Concile Vatican II renouvelant le regard de l'Église sur les autres croyants, et François d'Assise se rendant en pleine croisade chez le sultan d'Égypte. J'en ai fait deux livres, et vous sentez bien que 2019, l'année du 8e centenaire, je risque d'avoir encore du travail. À Abidjan, il fut facile de créer un groupe islamo-chrétien. On se retrouvait pour des soirées à thème, l'éducation des enfants, le pèlerinage à la Mecque ou à Jérusalem, ou bien lors du passage du pape, l'autorité dans nos religions, etc. Je faisais des tournées seul dans le pays, seul ou avec un musulman, ou avec des pasteurs protestants, afin de rencontrer les communautés chrétiennes et musulmanes de tel ou tel coin du pays. Je lançais aussi une petite revue renéotée dans laquelle j'interviewais surtout des musulmans. Comme les abonnés étaient très peu nombreux, j'en vins à appeler intérieurement mes éditions « La voix qui crie dans le désert ». Cette première étape, la plus longue, fut celle des fondations. Dieu me permit de découvrir un islam qui, moins marqué par les conflits que les pays arabes, acceptait souvent avec joie une relation amicale. Ce fut également la découverte en des non-chrétiens du travail de l'esprit hors de nos frontières et la nécessité pour l'Église de ne pas s'enfermer, mais d'être la tente de nomades dont parle Isaïe. Élargis l'espace de ta tente, l'étoile de tes demeures qu'on les distende, ne ménage rien, allonge tes cordages et tes piquets, fais-les tenir, car à droite et à gauche tu vas déborder. Ta descendance héritera des nations qui peupleront les villes désolées. En 1982, un rassemblement à Assise de 15 frères venus du monde entier réfléchit à notre approche de l'islam. Est alors décidée la création d'une commission internationale. Pour le choix d'un président par le définitoire général, Le sort tomba sur votre serviteur qui sans doute avait le plus de loisirs. J'étais déjà reparti vers la Côte d'Ivoire. Et quand, quelques mois plus tard, un des définiteurs s'en inquiéta, je lui demandai quelques avis. À partir du moment où il me conseilla d'aller écouter les frères de l'ordre aux quatre coins du monde musulman, mon sang ne fit qu'un tour et mes chaussures aussi. À partir de la Côte d'Ivoire, puis en 87, à partir de la France, je visitais la moitié de l'année. J'écoutais, j'encourageais ceux et celles qui y croyaient par expérience. Pendant 10 ans, je vécus une période pas aussi facile que des voyages en croisière, et l'accueil au Moyen-Orient n'était pas toujours agréable, au Moyen-Orient et en Herzégovine, n'était pas toujours agréable de la part des chrétiens, parfois même des franciscains. Mais quel enrichissement! Quelle admiration pour les frères et les sœurs qui tiennent dans des situations humainement impossibles. Plusieurs de ceux et celles que j'ai côtoyés devaient vivre avec la peur. Je citerai des exemples tout à l'heure. En 1993, cette étape se termine et je rentrais en France. Je souhaitais une année sabbatique, hésitant entre un retour en Afrique ou la réinsertion en Europe. Mais on régla la question. On me nomma maître des novices. Le 17 septembre 1993, je passais le matin le relais à Rabat, au Maroc, et le soir, mes novices m'accueillaient au Havre. Je passais de la planète islam à la planète noviciat. Trois ans plus tard, je fus remplacé par un plus jeune et une invitation survint. Le secrétaire de l'épiscopat français pour les relations avec l'islam me demanda de le rejoindre. Tant d'amitié et de conviction pour me dire combien j'étais qualifié me convainquirent d'éviter le chômage. Ce fut le troisième appel, car mon provincial vit que cela était bon. Ce fut une expérience ecclésiale, inimaginée, dans un pays que je retrouvais avec un islam, inimaginé lui aussi, quand j'avais quitté l'Europe en 68. Mais il y eut de grands moments avec les tournées dans de nombreux diocèses. Côté musulman, ce qui m'a le plus impressionné, c'est sans doute le dépassement que l'esprit m'obligea à faire face aux convertis à l'islam issus de milieux européens. Les premiers m'avaient un peu dégoûté par leur mépris du dialogue, puisque, disaient-ils, nous faisions partie d'une religion moribonde. Mais après, la démarche spirituelle de certains autres m'a conduit à trouver que le Saint-Esprit fait vraiment ce qu'il veut, quand il veut et où il veut, comme dit le pape François dans sa première encyclique. Alors j'avais souhaité ne pas faire un second mandat de 3 ans au secrétariat de l'islam des évêques de France, car pour un homme de terrain, je n'avais pas de base en France, ni réussi, sauf dans 2 cas, à créer ces amitiés musulmanes qui font dépasser et relativiser les défis, les difficultés du parcours. Cela semblait un peu comme un divorce. L'islam s'éloignait de moi, ou moi de lui. En tout cas, se produisait une séparation de corps. Mais l'Esprit Saint veillait. Une nuit d'octobre 2001. Au Mexique, on ne fait pas mieux comme pays musulman. Notre ministre général, Fra Giacomo Bini, en conseil plénier de l'ordre, ne dormait pas trop cette nuit-là. Depuis plusieurs années, on voulait créer un centre proche du patriarcat œcuménique à Istanbul. Pourquoi ne pas aussi en faire un centre interreligieux ? Et l'esprit, dit-on, lui souffla un nom. Consulté, mon provincial donna son assentiment, mais préféra ne pas se charger de la demande. Une semaine après Noël, une voix romaine résonna dans ma chambre du couvent de Paris. Et j'entendis, Fra Giacomo, « Guénolé, mon frère, prends une chaise. » Je devinais une catastrophe. Il me donnait du temps pour réfléchir et disait comprendre que je lui dise non. J'avais 66 ans. Il m'affirma plus tard qu'il n'aurait pas osé me demander s'il l'avait su. Après quelques jours, je me décidai à lui faire un courriel. Et j'écrivais « chercher comme Jonas ». Toutes les bonnes raisons de refuser. Mais bêtement, j'ajoutais qu'une baleine ne serait peut-être pas nécessaire. Par retour de courriel, il me félicita pour une obéissance à laquelle je n'étais pas encore tout à fait rallié. Mais après la rencontre du définitoire provincial, Je jetais ma bouteille à la mer et lui écrivais, en faisant allusion à mon livre « Rencontre sur l'autre rive, Saint-François et l'Islam ». Non sans crainte et tremblement, Jonas accepte de passer sur l'autre rive. Malgré un départ pour le Bosphore qui tarda 20 mois encore pour trouver des frères, vous vous doutez bien que je ne regrette pas. D'abord d'avoir obéi, et puis pour le projet qui avait été prévu 20 ans plus tôt au Sénégal, là où il n'y avait pas de problème de langue, et qui n'avait pu se faire. Je ne le regrette pas, mais avant, évoquons les rencontres qui m'ont fait avancer à chaque étape. Vous avez bien remarqué que je parle de rencontres et bien peu de dialogues. Le dialogue vrai existe, on en a parlé ce matin, entre intellectuels de haut rang, entre théologiens de deux religions, entre moines chrétiens et bouddhistes ou hindous. Et exceptionnellement avec les musulmans, en Algérie, avec les moines de Tibirine. Je crois l'avoir dit, le dialogue est pour moi un terme ambigu. Il est ambigu pour les gens qui entendent cela comme des discussions, les gens de la base. Je préfère pousser à la rencontre. Et elle existe. À la base, je donne quelques exemples. Par exemple, en France, sur le sud-est, il y a des matchs de foot entre imams et curés. Elle existe aussi entre religieux ou laïcs enfouis dans les pays musulmans à la façon de Charles de Foucault. La rencontre existe encore entre religieuses et les pauvres, comme Mère Teresa et tant d'autres. Et encore entre les religieuses et les familles dans des quartiers d'immigrés. Alors voici certaines rencontres de mon propre parcours. J'en choisis quelques-unes. D'abord en Côte d'Ivoire. La première, c'est celle de Bokoum. Bokoum était un lépreux illettré que j'ai fréquenté pendant 15 ans à la léproserie, tenue par les sœurs. Bokoum, c'est la force de Dieu dans la faiblesse. Bonté, piété, ouverture, joie. Je préfère lui laisser la parole en ce qu'on appelle le petit français. Dans une interview, au moment où il m'affirme que les familles ne viennent pas à la léproserie voir leurs malades, même si pour lui c'est sa faute, car il n'a jamais prévenu sa famille au Mali de son échec de migrant. Et voilà ce qu'il me dit. C'est pourquoi je dis tous les jours que mon famille, c'est les sœurs. Mon parent, c'est les sœurs. Tout ce qui m'arrive, c'est les sœurs. Tout ce que je gagne, c'est les sœurs. Si l'homme me fait mauvais, c'est les sœurs qui le soignent. Si on me donne manger, c'est les sœurs. À qui je vais parler, c'est les sœurs. C'est eux qui nous soignent. C'est eux qui rendent service. Tout ce qui nous manque, c'est eux qui nous donnent. C'est eux qui ont appelé le docteur. C'est eux qui ont construit avant. C'est comme ça, mon frère. Il y a des Maliens en pagaille ici. On me connaît. Mais quand on est pauvre, qui te connaît ? Mon famille, c'est les sœurs. Un musulman, hein, bien sûr. La deuxième sur laquelle je veux m'attarder un peu plus, c'est Baba Sako. J'aimerais m'attarder longuement sur ce vieux musulman avec qui j'ai travaillé dans les années 70 et 80 à la réconciliation des communautés en Côte d'Ivoire. Voici la rencontre qui m'a mis sur la voie des rencontres spirituelles entre croyants. Depuis quelque temps, je le visitais. Et apprenant que mon nom de baptême était Jean, il m'appelait Yahya, Jean-Baptiste dans le Coran. Un jour, j'arrive dans sa cour. Elle est vide et je crois qu'il est sorti. Mais sa femme et ses enfants me disent « Non, il est en prière dans le salon ». Je dis que je repasserai, mais ils me disent « Non, toi, tu peux rentrer ». J'entre. Il est assis sur son tapis de prière avec son chapelet musulman. Et il me fait signe de m'asseoir. Je sors mon chapelet chrétien et je m'unis à ma manière à ses invocations. Au bout d'un temps que je ne sais pas s'il fut long ou bref, il se lève et il me dit « Yahya, je suis drogué de l'amour de Dieu. » C'était aussi un homme plein d'humour. Il se disait franciscain. Quand un jésuite vint le voir un jour, il se présenta comme « Je suis un prêtre jésuite » et répondit du tac au tac « Je suis un laïc franciscain ». Et le jésuite pensa que j'étais passé par là. C'était un homme plein d'humour. Un soir, nous rentrons de l'annonciature. Nous avions fait se rencontrer des grands, comme on dit en Côte d'Ivoire, des grands des deux religions. Près de sa maison, je lui dis au revoir. En m'embrassant, il me glisse à l'oreille. Yahya, il n'y a que nous pour faire des coups pareils. Montant dans ma voiture, je me retiens de pouffer de rire et je le soupçonne d'en faire autant en entrant dans sa cour. Avec le recul et sa mort en 1997, je puis dire que Dieu m'a donné en Baba un guide spirituel. Et qu'il a fait craquer les limites que je pouvais inconsciemment donner à l'œuvre de son esprit. Au temps de la commission de l'islam, de l'ordre, j'ai été très frappé, par exemple, par les 6 frères franciscains de Somalie. Les seuls prêtres de ce pays, en comptant même l'évêque franciscain. En 1988, 2 ans après mon passage, l'évêque était assassiné d'un coup de revolver et un autre isolé à 600 kilomètres, décapité par un groupe traversant le village où il était très aimé. La cathédrale a brûlé et le plus jeune évêque maintenant de Djibouti, enfin déjà depuis 10-15 ans, continue à aller en toute discrétion voir régulièrement quelques rares chrétiens somaliens. Aux Philippines, dans l'île de Basilan, le monastère des Clarisses et la maison des frères étaient placés entre un camp de l'armée et la montagne refuge des rebelles, entre guillemets. Je venais d'arriver depuis 2 jours. Le 24 décembre 1991, dans l'après-midi, un homme était venu de loin. Le frère gardien me dit, il m'a réclamé de l'argent. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Il m'a menacé en disant, je reviendrai une de ces nuits. Je lui ai dit qu'il pouvait me tuer. Le même jour, quelques heures après, on célèbre la messe de minuit, mais à 19h. Si je m'en vais dormir après une petite fête entre nous au monastère, après la messe, les sœurs Clarisses et des postulants franciscains se mettent au travail pour préparer 300 à 400 repas prévus le lendemain entre chrétiens et musulmans. Le jour de Noël, dans la cour de l'école coranique, située près de la fraternité, ce n'est vraiment pas la victoire de Lépante. Les chrétiens perdent tout. Les chrétiens perdent à tous les jeux. Mais quelle joie d'être ensemble. Les musulmans n'ont pas apporté leurs instruments musicaux trop lourds. Mais Hutu, le jeune maître de l'école coranique, me dit « Viens ce soir à notre campement, nous continuerons à fêter le prophète Issa. » Tataï, c'est-à-dire papa, le frère gardien, est d'accord. Mais hélas, la trêve de Noël entre les belligérants est rompue vers 16h. Quand, à la nuit tombée, Hutu et ses amis viennent me chercher, Tata y hésite. Il accède à leur projet à condition de me ramener après 1 heure au campement. Au campement, la fête bat son plein. Et je prends les photos qu'il me demande. Et puis pour moi aussi. Puis je m'assieds et je jette un coup d'œil sur ma montre. Mes gardes, s'imaginant que j'ai peur, soulèvent leur djellaba, montrent leur poignard caché, prêts à défendre chèrement ma peau devant des kidnappeurs et leurs armes à feu. Ramené à la fraternité, j'entendrai dans mon lit les coups de feu dans la montagne voisine que couvrait le son des instruments. Mais je m'endormirai en songeant que les sœurs Clarisse, Tataï et frère Gus, mon compagnon américain qui sera pourtant enlevé, 70 jours l'année suivante, c'est une armée qui conjure les batailles. Deux mois plus tard, au Cachemire indien, le 3 mars 1992, je visite des sœurs franciscaines missionnaires de Marie, placées au cœur de la guerre entre l'armée indienne et les guérilleros, je dirais, partisans plutôt du Pakistan. Elles sont placées là, dans la ville de Baramulla, 40 ou 60 000 habitants, une ville sans un seul médecin. Les religieuses, il y a aussi des carmélitaines, restent là, avec le curé, un jésuite et une poignée de chrétiens. Visitant une mosquée avec deux amis de la mission, dont un était musulman, on nous prie fermement d'aller dans la montagne, voir les tombes des martyrs tués par les soldats indiens quelques jours auparavant. Pour parvenir dans cette zone ennemie, il nous faut traverser un grand fleuve. Le pont emprunté est vide, mais 300-400 mètres plus haut, il y en a un autre, avec des casemates et 6 mitrailleuses. Parvenus dans la montagne au cimetière, de jeunes militants m'entourent. On nous laisse enfin redescendre. Mais si j'ai hâte de retourner à la mission catholique, j'ai peur que les soldats indiens demandent des explications. Sitôt repassé le pont, on me fait brusquement entrer dans la petite boutique d'un chrétien. Nous y restons une trentaine de minutes, puis discrètement, nous arrivons à la communauté des sœurs carmélitaines. C'est à ce moment-là, je crois, qu'elles me dirent : nous vivons au rez-de-chaussée, car au premier étage de notre maison, les carreaux sont tous cassés par les balles que les deux camps se tirent au-dessus de nos têtes. Et elle disait cela avec un sourire qui me laissa pantois. Leur paix intérieure me faisait un peu honte, mais je me suis absous moi-même en chantant intérieurement l'esprit qui donne pareille foi et pareil amour. Ma dernière vision de Baramulla le lendemain sera dans la brume du petit matin, après avoir célébré la messe avec mes sœurs franciscaines, de les apercevoir par la fenêtre, rester devant le Saint-Sacrement, source et force pour durer dans ce milieu éprouvant. De l'autre côté de la frontière, au Pakistan, à l'occasion de plusieurs voyages, j'admire depuis plus de 30 ans comment nos frères franciscains et bien d'autres garde le cap d'une présence fraternelle avec leurs concitoyens musulmans. Et nous avons entendu le frère Pascal parler de cette manière positive. Malgré la puissance du courant islamiste et la terrible passion de Asia Bibi, cette chrétienne en prison depuis 10 ans et qui refuse d'apostasier pour être libérée. dans ce pays, une minorité musulmane combat avec les chrétiens pour conserver la laïcité et les liens interreligieux entre les communautés. En dehors de l'ordre, il suffira que j'évoque mon passage à Tibérine et les quelques lignes reçues de Christian de Chergé 2 ans avant sa mort. Peut-être que je vous l'ai dit, ça. Je ne savais pas que vous étiez devenu maître des novices. Il en faudra ici, ensuite. Au temps du secrétariat de l'islam en France, là je vais être bref, j'ai dit m'être senti isolé. Je n'avais pas d'amis et d'expérience à la base, mais que cependant 2 amis musulmans m'avaient marqué. Saïd Ali Koussaï est l'un des deux. C'est un malgache devenu français. Il avait quitté la politique pour s'engager à la retraite dans l'aide à une confrérie des Comores en France. Nous sommes devenus 2 frères. Et peu avant mon retour en France, il y a 3 ans, nous avions commencé à faire des conférences ensemble. Hélas, peu après, il eut un sérieux accident quand un prêtre le ramenait chez lui après un mariage mixte dans une église où il était le témoin musulman. Je viens d'apprendre qu'il est enfin guéri, après 2 ans et demi, et qu'il demande à reprendre notre témoignage à 2. Il s'est arrangé avec une association islamo-chrétienne, et ce sera fin novembre, Inch'Allah. Revenons en Turquie. Là, les portes se sont ouvertes pour aller prier dans les édifices religieux des autres et pour réaliser une célébration sans syncrétisme, on vous en a parlé, avec nos frères derviches tourneurs. Nous la faisons depuis 2006. En 2014, j'ai proposé au Dédé que vous avez vu au début du cours, Dédé Naïl Dédé, le chef spirituel de ce groupe de derviches, je lui ai proposé de partir tous deux à Konya, au tombeau de Rumi, leur fondateur, et de méditer en silence côte à côte, tous les deux, pendant 30 minutes. Voyant cela, un autre ami musulman dit à un de mes amis chrétiens que si j'avais besoin d'argent pour de semblables idées, il était là. C'était Ismaël qui était avec le Dédé l'autre jour, il est venu ici. Alors j'ai proposé à mon frère Soufi que son groupe de derviches, et j'ai proposé aux frères de cette communauté d'Istanbul, de nous rendre ensemble assises au tombeau de Saint-François et de faire la même méditation. Ce rêve s'est réalisé en 2015. Je n'ai pas fini encore de rendre grâce à Dieu pour le don qu'il nous a fait. 1 semaine en frère, au-delà de toute frontière. Et l'autre jour, il est venu pour que nous réfléchissions à reprendre cela pour le 8e centenaire dans 4 villes de France. Alors, mon espérance, L'amour triomphera de la haine. Comme dans le christianisme, j'ai rencontré dans l'islam des intégristes et des saints, des docteurs de la loi et des imbéciles. Mais aussi, comme dans le christianisme, beaucoup de gens vivant calmement et généreusement leur religion dans une vie de prière et de bon voisinage, comme on l'a évoqué cet après-midi ou ce matin. À Jérusalem, au début de 1988, le custode de Terre Sainte rassemble quelques frères autour de moi. La plupart sont étrangers. Mais le plus jeune, un Libanais, pleure la mort récente de plusieurs membres de sa famille dans la guerre de son pays. Les anciens, sans même revenir sur des choses positives qu'ils m'avaient dit en tête-à-tête, commencent à dire beaucoup de mal des musulmans, peut-être par compassion pour ce jeune frère. Mais celui-ci prend doucement la parole. Mes frères, quand on veut parler des musulmans, il faut d'abord dire le positif. Les anges volaient et la réunion changea de ton. Le 11 septembre 2001, la Commission œcuménique des Églises d'Europe, orthodoxe, protestante, catholique, chargée de la réflexion pour les relations avec les musulmans, se réunit à Sarajevo. Quand la secrétaire vint nous annoncer qu'une tour du Trade Center avait été touchée par un avion, nous avons continué à préparer la venue pour le lendemain de délégués d'église, évêques, prêtres, laïcs et des invités musulmans d'Europe de l'Ouest et de l'Est. Nous pensions que ce pouvait être un coup de Ben Laden, encore inconnu par de nombreux occidentaux, mais ce pouvait être un accident. Quand la secrétaire revint après le choc de la deuxième tour, nous avons stoppé la réunion pour téléphoner à nos autorités respectives. La réponse du Conseil œcuménique et du siège des conférences épiscopales d'Europe fut la même, raison de plus pour maintenir cette réunion. On la fit, et deux ou trois jours plus tard, se déroulait la soirée festive qui était prévue pour ça. Dans cette Bosnie qui sortait de la guerre civile, des juifs, des chrétiens, des musulmans chantaient ensemble les chants des autres dans un cœur interreligieux qui a dépassé les frontières. Il avait été fondé peu avant par un franciscain qui avait perdu plusieurs membres très proches de sa famille. Il l'avait fondé pour vaincre la haine. Un dernier fait que j'aime citer, à Istanbul, il y a quelques années, alors qu'on attendait un bus, un frère d'un groupe de passage me glisse qu'il est né en Bosnie, alors qu'il vient avec des frères italiens. Mon père a été tué par un musulman chassé de chez lui, qu'il avait recueilli quand les Serbes avaient chassé les musulmans. Le père est tué par ce même musulman quand les musulmans arrivent dans leur coin. Le frère continue, d'autres musulmans ont cassé les jambes d'un de mes frères. Quand j'appris l'assassinat de mon père, je suis rentré à la maison et j'ai voulu prendre un fusil. Ma mère a bondi et m'a pris ainsi. Il me tendait le creux de sa main. Si tu prends un fusil dans cette main, tu ne pourras plus y mettre le corps du Christ. Cette épouse et mère, saisie par le Christ Jésus, fut une force plus puissante que le fusil. Le frère conclut, « Quand on entend sa mère vous dire cela, ça vous calme et ça vous pousse au pardon. » Les chrétiens ne sont pas les seuls, évidemment, à être artisans de paix et même de pardon. En France, au moment d'un attentat au Bataclan à Paris, qui a fait plus de 100 morts, en novembre 2015, un homme a perdu sa jeune femme. Et sur Internet, il met « Vous n'aurez pas ma haine ». Cet homme est athée, mais il a conscience que les djihadistes veulent récolter la haine. « Vous n'aurez pas ma haine » est devenu le titre d'un petit livre où il raconte les jours qui ont suivi l'attentat. Il apprendra à son bébé, à leur bébé, à ne pas grandir dans cet esprit de haine pour que la victoire soit de leur côté et non dans le camp des assassins. Quel encouragement à rester debout dans la tourmente que de lire un autre témoignage admirable, écrit par un médecin musulman de Gaza, qui, quelques mois après avoir perdu sa femme d'un cancer, a vu anéantir ses filles et une nièce dans un bombardement israélien. Le titre de son livre est « Je ne haïrai point ». Cela rejoignait le témoignage de la femme d'un pasteur allemand tué en Turquie en 2007 avec ses compagnons turcs devenus chrétiens. Elle affirme sur la couverture de son livre « J'ai dit non à la vengeance ». Quelle émotion aussi d'apprendre que l'une des trois Israéliennes, dont les fils ont été assassinés, a téléphoné par compassion à la maman palestinienne dont l'adolescent a été brûlé en représailles. Ayant subi la haine de trop près, tous ces gens savent qu'elle ne paie pas. Ils sont nos modèles. J'en arrive à ma conclusion. Pour moi, l'islam, c'est d'abord un mystère. Comment Dieu a-t-il permis cette expression religieuse 600 ans après Jésus ? Je remets ce mystère entre les mains de Dieu. Le mystère, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. Le mystère en christianisme, c'est une histoire d'amour. Mystère de la Trinité, de l'incarnation, de la rédemption. L'islam est un mystère que je remets entre les mains de Dieu. Comme j'ai vibré à tout le testament de Christian de Chergé, prieur de Tibérine, et en particulier à cette phrase, j'y ai tant pensé depuis 22 ans. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils en pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance en jouant avec les différences. L'islam, c'est aussi le compagnon, exaltant avec ceux que j'ai évoqués, mais aussi parfois difficile. Par exemple, quand on sent un refus d'intégration qui fait le jeu des radicaux chrétiens ou athées. Et aussi, sans mettre le terrorisme sur le dos des musulmans qui en sont eux aussi les victimes, l'influence néfaste des prédications axées sur les interdits et pas assez sur Dieu miséricordieux. Cela ne favorise pas une approche positive de ses voisins. Mais je ne suis pas le seul et j'ai l'intuition et même la certitude d'une spiritualisation de l'islam. Parce que le Coran y pousse, que Dieu est là et que l'amitié est semée dans tant de lieux du monde par des chrétiens et des chrétiennes, finira par germer. On ne va pas assez souvent au cœur du message évangélique parce qu'on croit cela acquis. On passe beaucoup de temps, au moins en certains pays, à exprimer notre doctrine identitaire face aux musulmans, moins à se regarder dans le miroir de la personne de Jésus qui a rencontré les non-juifs sans exiger qu'ils se convertissent. Il a envoyé l'Esprit Saint qui nous travaille, mais qui travaille aussi l'autre, sans le brusquer. Il nous précède pour découvrir que le Père se réjouit quand nous allons avec lui, l'Esprit, chez ses autres enfants, ceux qui ne sont pas de la bergerie. J'ai regardé un peu plus Dieu Trinité, qui est relation d'amour infini, à l'intérieur de lui-même, entre Père, Fils et Esprit, et à l'extérieur, entre lui et ses créatures. Deuxièmement, j'ai appris que l'Église pouvait et devait être la tente de nomades, dont parle le prophète Isaïe que j'ai cité au début de ma conférence. Enfin, troisièmement, j'ai appris à reconnaître l'Esprit Saint à l'œuvre au-delà de nos frontières ethniques et religieuses. Quand, partageant la vie de mon vieux Baba en Côte d'Ivoire, je réalisais la richesse reçue. Je perçus l'appel de Dieu à louer l'Esprit qui m'attendait en lui. Aller sur l'autre rive, me laisser accueillir, recevoir l'hospitalité de l'autre et remémorer tout cela en la dernière étape de ma vie m'élève à la louange. Maintenant, ma joie est de vivre dans cette action de grâce jusqu'au jour de la grande rencontre, celle de Dieu amour. Il y a plus de 30 ans, quand je quittais l'Afrique, j'ai écrit dans une revue, et je le pense encore plus maintenant que cela approche. Voilà ce que j'écrivais. De l'autre côté de la porte de mon paradis. J'imagine Ampateba et Bokoum le bien-aimé, avec mon vieux Baba. François d'Assise, soufflant sa place à Saint-Pierre, les guide à ma rencontre. Me regardant tous avec le même sourire de lumière, il laisse la parole au fondateur de la Tarika des frères mineurs. Petit frère, me dira Saint-François, tes amitiés n'étaient pas toujours catholiques. Mais tu peux entrer. Ils ont assez prié pour que tu les rejoignes. Merci de votre attention.